vous suit.
Voici les titres du journal.
Chaque année, le week-end qui suit l'Ascension est consacré au moulin suisse. Dans la région, le vieux moulin de Latine à Trois Torrents a ouvert ses portes afin de comprendre comment fonctionnait l'édifice lorsque celui-ci était encore en activité. À Saint-Gingolf, la raclette a fait fondre les frontières. Plusieurs centaines de gourmands ont enterré hier la hache de guerre entre la raclette valaisanne et la raclenette française, un événement dont les bénéfices seront entièrement reversés aux sinistrés de Blatten. Et en football, grosse déception pour le FC Bienne. L'équipe ceylandaise s'est inclinée 4-1 hier contre Bâle en finale de la Coupe Suisse de football. Les précisions dans ce journal.
Et pour la météo, un ciel nuageux, voire menaçant au menu de ce lundi. Demain, temps instable et changeant. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Anthony Dacampo. Bonjour Anthony.
Bonjour Axel, bonjour à tous. La force de l'eau était à l'honneur ce week-end à l'occasion de la journée suisse des moulins. Dans la région, la fondation Vimoti a ouvert les portes de son moulin de Latine à Trois Torrents. L'occasion de mettre en valeur ce site classé monument historique depuis 1987. Vieux de 600 ans, l'édifice installé au cœur des gorges de Latine a traversé les siècles, connu des abandons, puis une restauration complète dans les années 80. Un travail entrepris par la fondation actuelle qui fêtera ses 40 ans l'an prochain. Les précisions de son président Nicolas Premont.
En fait, on se trouve sur le site des vieux moulins de Latine. C'est un site historique qui date, selon les écrits, en 1400. On avait déjà un meunier sur place et un scieur. Et le site, c'était le site industriel de Trois Torrents, qui est prénommé comme ça, où tout au long des siècles, il a été utilisé pour la manufacture de tout ce qui est forgeron et ainsi de suite. Après, le moulin de Latine, comme son nom l'indique, on se trouve au bord de Latine. Grâce à Latine, ce site a été construit pour pouvoir faire tourner les roues pour le fonctionnement de la meule. Et on se trouve en contrebas à l'entrée du village de Trois Torrents, vraiment dans les gorges latines. C'est un lieu assez magique. On se sent bien quand on est ici. En fait, c'est calme. Là, on entend le bruit de l'eau derrière nous.
Une riche histoire qui est mise en avant chaque année lors du week-end qui suit l'Ascension. L'occasion de ne pas oublier comment nos ancêtres se sont développés, comme nous l'explique Nicolas Premont.
De nos jours, en fait, c'est facile. On commande et on ne voit plus ce qui se passe. En fait, on reçoit dans une boîte aux lettres quelque chose. Et puis le but, c'est de vraiment mettre en action ce moulin. On a une tisserande qui est ici, on a le forgeron qui est là. On va faire tourner la meule pour pouvoir faire de la farine. C'est vraiment montrer aux gens, déjà les moulins en action, c'est fabuleux, c'est déjà vivant. Et puis montrer aux gens comment ça se passait. Alors aujourd'hui, on a une superbe journée, mais j'imagine que par le passé, quand c'était en hiver ou ainsi de suite, c'était un peu plus rude comme coin, parce que c'est très très froid. Et comme ça, les gens peuvent vraiment se rendre compte du site et puis de la chance qu'on a d'avoir ça à Trois Torrents pour notre patrimoine.
Des propos recueillis par Ludovic Turin.
La passion du fromage aurait été plus forte que le chauvinisme franco-suisse.
Hier à Saint-Gingolf, la raclette à la frontière a réuni plusieurs centaines de personnes autour du célèbre mets au fromage fondu. Mis sur pied par le pape de la raclette, le valaisan Eddy Baillefard et l'humoriste français Chicandier, l'événement est né d'une querelle humoristique entre la Suisse et la France pour savoir qui pouvait servir le plus de raclette. Si l'objectif était d'enterrer la hache de guerre et de célébrer le fromage dans une ambiance de fête et de convivialité, beaucoup de discussions évoquaient avec douleur la catastrophe de Blatten, survenue il y a 4 jours. Co-organisateur de la raclette à la frontière, le valaisan Eddy Baillefard n'a pas hésité à faire preuve de solidarité.
Il faut souligner que les bénéfices de la journée ainsi que les résultats de la tombola qu'on a organisée à l'occasion seront versés aux sinistrés de Blatten, oui, excuse-moi. Ce sera tout versé à ces sinistrés, déjà pour les biens nécessaires. Parce qu'il faut bien penser qu'ils n'ont pas envie de faire la fête, ils n'ont pas le cœur à la fête. Mais nous sommes solidaires avec eux et nous avons une grosse pensée pour les copains au Valaisan.
La catastrophe de Blatten, on le sait, a eu un large écho dans le monde, notamment en France. D'où est originaire l'humoriste et co-organisateur de l'événement Chicandier. Il revenait sur l'impact que cela a eu dans son pays.
Il y a eu un regard, moi je ne suis pas un spécialiste, on va dire, du climat, mais il y a eu un vrai regard sur le réchauffement climatique, toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Donc ce village, malheureusement sinistré aujourd'hui, fait comprendre que ça peut se passer juste à côté de nous, juste derrière nos frontières, qu'il y a quand même tout un village qui est sinistré, il y a des familles qui n'ont plus de maison, et que ça peut nous arriver tous demain, et donc peut-être réfléchir à une écologie quand même plus pérenne dans le temps, et une solidarité évidemment entre les gens qui ont et des gens qui n'ont pas.
C'était des propos recueillis par Ludovic Turin.
Le pont de Fregnelet dans le Val-de-Bagne a été emporté ce matin par une lave torrentielle.
La passerelle avait été construite en septembre dernier, après les intempéries de juillet 2024. Son rôle était de relier Champsec, Lourtier et le Haut-Val-de-Bagne. Cet ouvrage provisoire devait permettre au canton du Valais de construire une nouvelle galerie pour sécuriser le trafic de la route cantonale. C'est bien la roue cassée d'un wagon d'un train de marchandises qui a provoqué un déraillement dans le tunnel ferroviaire du Gothard en août 2023. Le service suisse d'enquête et de sécurité l'a confirmé ce matin à Berne. Il a produit un film d'animation qui reconstitue l'accident. Il n'y avait pas eu de blessés, mais de gros dégâts chiffrés à 150 millions de francs par les CFF. Ils avaient dû refaire la ligne sur 7 km. Le service d'enquête formule des recommandations, en particulier à l'Agence ferroviaire de l'Union européenne. La première consiste à exiger un diamètre plus épais des roues. Les explications de l'enquêteur en chef, le fribourgeois Philippe Turler.
Des fissures se sont formées depuis la bande de roulement dans le corps du roue jusqu'à ce que la matière autour n'était plus suffisante pour tenir l'effort et lors du franchissement dans le tunnel, la roue s'est brisée. Le contrôle visuel de ces fissures sont très difficiles si elles ne sont pas traversantes. Un contrôleur technique lors du contrôle du train, lors de la préparation, n'est pas en mesure de détecter de telles fissures. La seule manière de détecter des fissures dans une roue, c'est un contrôle aux ultrasons à l'état de l'essieu démonté.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un accident unique ou particulier, ou bien est-ce qu'on a un problème systémique ?
Comme nous avons investigué non seulement l'essieu cassé, mais les trois autres essieux qui se trouvaient sur le même wagon, nous avons constaté les mêmes fissures pour une roue après 50 000 km. Donc on peut parler d'un phénomène systématique de formation de fissures verticales dans les roues. 95% du parc de wagons est freiné avec les nouvelles semelles synthétiques, mais seules sont critiques les roues en fin de vie, c'est-à-dire lorsque le diamètre est au minimum.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. Les CFF appuient le rapport du service d'enquête suisse. Ils veulent renoncer au transport de wagons marchandises équipés de roues et de semelles de frein identiques à celles qui ont provoqué l'accident en 2023.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé aujourd'hui en Lituanie pour participer à un sommet de l'OTAN.
L'Alliance Atlantique a renforcé son flanc oriental depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. La Suède et la Finlande ont rejoint l'OTAN, respectivement en 2024 et 2023, mettant fin à des décennies de neutralité militaire. En hockey sur glace, le Lausanne HC a annoncé le départ de l'attaquant finlandais Lauri Paajuniemi. Les deux parties ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur collaboration. Paajuniemi était arrivé au LHC au début de la saison dernière. L'ailier a inscrit 21 points en 41 matchs lors de la saison régulière et a marqué un but en 5 rencontres lors des playoffs.
Côté football, le FC Bienne a cultivé son rêve mais ne l'a pas exaucé.
Dans un Vangdorf plein à Berne, Bienne n'a pas montré de complexe face au champion suisse en titre. S'il a concédé l'ouverture du score, le pensionnaire de Promotion League a réagi à l'heure de jeu grâce à un pénalty de Brian Beyer qui a égalisé à 1 partout. Les Célandais se sont par ailleurs procuré plusieurs occasions franches dans cette partie, mais le réalisme rhénan aura eu le dessus. Malgré la fierté d'avoir proposé un match solide et abouti, l'entraîneur biennois Samir Chaibedra a nourri quelques regrets.
Ouais, c'est sûr, on était un peu frustrés parce que je pense qu'on a, fait bonne figure, on a été capable de montrer une bonne image de nous et surtout on y a cru un peu parce que quand on revient contre le grand FC Bâle et derrière prendre le pénalty, c'est dommage.
Qu'est-ce qu'il a manqué aujourd'hui, hein ? Le réalisme qu'on a vu très affûté côté balois ?
Ouais, le réalisme un peu et une décision de l'arbitre aussi qui est un peu litigieuse et qui fait mal au moral, le 2-1.
Même si elle a été chahutée, le FC Bâle est donc parvenu à signer son premier doublé Coupe Championnat depuis 2017. Le milieu de terrain français Léo Leroy savourait, bien conscient que Bienne n'a pas été une proie facile.
Avant notre but, on dominait plutôt le match. Après, quand on a marqué ce but, eux, ils ont été un peu plus offensifs. Ils ont eu des grosses occasions un peu chaudes. Et voilà, heureusement qu'on a marqué ce but rapidement après le penalty, comme ça on n'a pas eu le temps de douter. C'est exceptionnel de vivre ces saisons-là avec ce groupe. Ouais, de faire le doublé, c'est quelque chose d'énorme. On va profiter d'essayer de faire une grosse saison aussi l'année prochaine avec notamment la Coupe d'Europe et essayer de lancer une longue série peut-être de titres pour Bâle.
Un dossier réalisé par nos confrères de RFJ.
L'actu en continu, radiochablais.ca.